et je vais juste prier pour toi.
Je pars en mission, c'est tout.
C'est ça. Seigneur, merci beaucoup pour Fabrice qui s'est levé aujourd'hui pour nous apporter ce message. Merci Seigneur parce que oui, c'est la toute première fois qu'on aura aussi la joie de l'entendre ici dans cette communauté. Je te demande vraiment Seigneur de parler à son cœur, de l'inspirer en live, si je puis dire. Et puis donne à nos cœurs toute l'attention que toi, Saint-Esprit, tu mérites. Je demande vraiment qu'on puisse tous repartir avec quelque chose de solide pour notre semaine, pour notre journée. Et Seigneur, oui, fais de nous vraiment des gens qui écoutent et qui ont des oreilles pour entendre. Amen.
Amen.
Et merci beaucoup.
Merci. Merci Nicolas. Je voulais remercier le temps de louange parce qu'il y a un des chants qui m'a rappelé un moment merveilleux que j'ai vécu à Neuchâtel, puisque c'était l'union avec mon épouse Christine, ici présente, une personne merveilleuse, pleine de qualités et de compétences au service de la FRAE. Et voilà, beaucoup d'émotions encore ce matin et beaucoup de reconnaissance envers notre Dieu. Et c'est aussi pour cela que je suis ce matin devant vous, pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour nos vies. Et puis pour nous édifier les uns les autres. Et c'est au travers de la série de 1 Corinthiens, du chapitre 4, que je suis devant vous. Alors je sors mon... Et pour introduire ce message, je vous ai apporté un petit jeu. Je vais sortir de mon sac... Ah, c'est une boîte de Lego. Là, je vois mon épouse qui s'inquiète. D'où il sort cette boîte de Lego? Connaissez-vous le Lego? Avez-vous déjà joué au Lego? Jamais? En tant que parent, enfant, grand-parent? Et moi, je voulais faire un parallèle avec ce Lego et avec notre ego humain. Oui. Et cet ego humain, que nous pouvons représenter par ce Lego, donc je vais sortir quelques pièces pour ceux qui auraient perdu la connaissance de ce Lego, hein, qu'on pourra représenter. Donc on représentera cet ego humain au travers de ce Lego. Alors vous parlez de l'ego humain, moi qui suis français. Nous qui sommes champions du monde de beaucoup de choses. Voilà, dans un magnifique pays qu'on a la chance de pouvoir découvrir notre magnifique week-end d'église. Et ainsi, je vous propose d'aborder ce thème au travers donc, de ce chapitre 4 de 1 Corinthiens. Et je commencerai même à partir du verset 21 du chapitre 3. Et donc, lisons ensemble. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Céphas, le monde, la vie, le présent ou l'avenir. Tout est à vous et vous êtes à Christ, et Christ est à vous. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions des cœurs. Chacun recevra alors de Dieu la louange qui lui revient. Frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue ? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu ? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu ? Déjà vous êtes rassasié, déjà vous êtes riche, vous avez commencé à régner sans nous. Si seulement vous pouviez régner en effet, pour que nous aussi nous puissions régner avec vous. En effet, il me semble que Dieu a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été donnés en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons de la faim, de la soif, du dénuement. Nous sommes maltraités, errants, nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous répondons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les déchets de tous, jusqu'à maintenant. Mais ce n'est pas pour vous faire honte que j'ai écrit cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ, par l'Évangile. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil en pensant que je ne viendrai pas chez eux. Mais je viendrai bientôt, si c'est la volonté de Dieu. Et je prendrai connaissance, non des paroles, mais de la puissance de ceux qui se sont enflés d'orgueil. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous ? Que je vienne chez vous avec un bâton ? Ou avec amour et dans un esprit de douceur ? Ça va jusque-là ? Je vais boire un verre d'eau. Je suis déjà sec. Alors, pour aborder ce thème, sur notre identité à travers de l'ego humain et de l'estime de soi, je vous propose une réflexion en 3 points. Je suis les instructions de Rose Blanche. Je ne sais pas si ça fonctionne. Ouais, voilà. C'est bon. Voilà. Alors le premier point, c'est l'identité des Corinthiens. Et je commence ce premier point par une question. L'ego humain n'est-il pas l'esprit de ce monde ? L'égocentrisme, nombril de ce monde ? D'ailleurs, ne dit-on pas se regarder le nombril ? Lorsque nous regardons la direction idéologique de certains pays, promulguant le nationalisme dans un esprit de protectionnisme, avec le rejet de ceux pensant différemment, du rejet de l'étranger, sous prétexte du bien-être des citoyens déclarés conformes à cette idéologie, et à notre échelle, dans notre contexte professionnel, associatif. Ne sommes-nous pas confrontés à des personnes mettant en avant leurs prouesses, allant jusqu'à même s'octroyer, s'accaparer notre travail, et ne sommes-nous pas soumis par la société à la recherche de notre bien-être corporel et de notre bien-être mental, par toutes sortes de méditations et de temps de réflexion, de relaxation? Nous le constatons. Ce sont des personnes orgueilleuses et vantardes, dans un esprit égocentrique, avec pour conséquence, dans un premier cas, à la conduite de graves fractures sociales, sociétales, jusqu'à la guerre entre nations, à la guerre civile, et dans le deuxième cas, allant à la recherche de notre planète matérielle, jusqu'au culte du corps. Et n'est-ce pas là l'esprit individualiste que nous constatons dans notre société? Alors, dans des récentes recherches archéologiques, ont montré que la ville de Corinthe attirait ceux qui avaient des ambitions sociales, qui étaient avides de statut, avides de pouvoir, tous en autorisant toutes sortes de dépravations. C'était l'esprit ambiant de cette immense ville de Corinthe qui était à la croisée des grandes routes du moment, des grandes routes économiques du moment. Et l'époque et cet esprit égocentrique étaient présents dans l'église de Corinthe. Au sein de l'église, des relations multiples se sont établies entre les gens de l'église et les serviteurs de Dieu, comme Paul et Apollos. Les uns étaient formés et enseignés par Paul, d'autres ont été chargés de responsabilités par Apollos. Au lieu de se réjouir d'être en relation avec Paul et Apollos, eh bien, ils se sont opposés. Et cela a créé des graves fractures, des graves divisions au sein de l'église de Corinthe. Et l'un qui prétend qu'il doit être responsable parce qu'il est disciple de Paul. Et puis un autre revendique cette position parce qu'il est disciple d'un autre serviteur, et ainsi de suite. Nous lisons dans ce chapitre 3, verset 21, « Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes. » Et au chapitre 4, verset 7, « Pourquoi te vantes-tu ? » Et notons au verset 6, Paul exhorte « Que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées, au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. » Alors Don Carson, un théologien de notre siècle, de notre époque, c'est un théologien qui écrit très bon ouvrage théologique d'une très grande finesse. Et il dit ceci par rapport au verset 6. Les chrétiens jugent selon les critères légalistes qu'ils ont eux-mêmes établis, s'attachent à leurs gourous et rejettent les autres. Ils se considèrent souvent comme une voix prophétique, alors qu'ils prennent la place de Dieu par leurs prétentions. Et je pourrais ajouter, par leur orgueil. Et le mot employé pour désigner orgueil à plusieurs reprises par l'apôtre Paul dans cette lettre est le mot physio. Alors moi, tout de suite, ça me fait penser à la musculation. J'en ai fait en étant jeune, ça ne se voit pas comme ça, mais alors, ça m'a bien aidé devant les difficultés de la vie. Mais et ce mot physio signifie littéralement être trop gonflé, comme un soufflet, ceux qui font de la cuisine, mettant en évidence l'ego humain. Et j'ai trouvé cette citation de Soren Kierkegaard, alors désolé pour la prononciation, qui est un théologien danois. Et dans son livre « La maladie à la mort », je vais vous l'afficher, il écrit en 1848, dit que l'état normal du cœur humain est d'essayer de bâtir son identité autour de quelque chose qui n'est pas Dieu. L'orgueil d'être capable de mener sa vie, de se valoriser et de trouver un but suffisamment grand pour donner un sens à la vie sans Dieu. Alors moi, inconsciemment, en étant jeune, j'étais comme ça. Et puis Dieu m'a parlé. Et m'a transformé. Mais à l'opposé, nous pouvons être habités par un sentiment d'infériorité qui justifie notre paresse dans une fausse humilité et avec conséquence d'exploiter les dons et les capacités des uns. Alors nous pouvons le vivre dans notre milieu professionnel, mais nous pouvons aussi le vivre dans nos institutions, au sein de l'Église. Et la Bible désigne cela comme la fumisterie intellectuelle. Et la définition se dit surtout d'une personne qui manque de sérieux, qui ne s'acquitte pas de sa tâche avec conscience et exactitude. On peut dire, ne comptez pas sur lui, c'est un fumiste. Et n'a-t-on pas déjà entendu, en tant que parent, dire d'un professeur de votre enfant, c'est un élève qui est très doué, oui, certes. Mais c'est un fumiste. Il ne fait pas grand-chose. Il doit mieux faire au deuxième trimestre. Je l'ai entendu. Dans les deux cas, l'ego humain qui est gonflé ou dégonflé n'a rien en son centre. Il est vide, sans la présence de Dieu. Et être dans cet état, dans cet un danger imminent d'explosion ou d'implosion, comme un ballon rempli trop d'air ou desséché par le temps. Et j'en arrive à mon deuxième point. L'identité de l'apôtre Paul. Car c'est bien de ça dont on parle dans ce texte. Ces personnes se désignant comme serviteurs de Christ en se considérant comme des gourous, conduisent à terme vers des abus d'autorité, vers des abus spirituels et des abus sexuels. Philippe Yancey, un écrivain et journaliste évangélique, dans son livre « Déçu par l'Église », et oui, ça existe, décrit les Corinthiens comme des idolâtres, des adultères, et des personnes sujets au bavardage, répandant des propos malveillants. Et dans nos églises, nous n'avons pas toujours le courage de dénoncer ces situations, par crainte du qu'en dira-t-on, ou par protection de notre réputation vis-à-vis du monde extérieur. Et l'attitude de Paul face au jugement des Corinthiens face à ces personnes avides de pouvoir, nous donne un bel exemple à suivre, car ils ne cèdent pas à la tentation, ne se justifient pas, ou ne se lassent pas de son ministère. Mais il a le courage de dénoncer ces situations, en rappelant de manière paisible aux Corinthiens sur quoi est basée son identité. Versets 1 et 2, comme des administrateurs du ministère de Dieu, c'est-à-dire de l'Évangile. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles en Christ. Et puis au verset 3 et 4, pour ma part, il m'importe très peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas non plus moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien. Mais ce n'est pas pour autant que je peux être considéré comme juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et par ces mots, l'apôtre Paul montre que son identité, qu'il a de lui-même, n'est pas dans le regard des autres. Il affirme que son autorité pour déjouer les plans de pouvoir, de domination de ces personnes toxiques et malveillantes. À cela s'ajoute l'énumération de ces souffrances des versets 11 à 13. C'est la pédagogie de Paul pour affirmer la puissance du royaume de Dieu, en étant lui-même envoyé par Dieu et investi d'une mission, celle de propager l'Évangile et d'établir des nouvelles églises. Et ce, pour faire contraste avec l'attitude orgueilleuse des Corinthiens, qui, eux, de leur côté, ne risquent pas grand-chose à l'intérieur de l'Église. Ils manipulent les chrétiens afin de les contrôler. Tout cela à l'aide de la puissance de leurs paroles. C'est ce qui nous est rapporté au verset 18 et 19. Et Paul ajoute au verset 14 et 15, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris cela, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. En effet, si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'Évangile. » Et la clé de ce chapitre, je pense qu'elle se trouve au verset 16. Je vous en supplie donc, soyez mes imitateurs. Et cette idée apparaît également dans 1 Corinthiens 11, verset 1, quand il écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même en Christ » ou encore dans Philippiens 3, 17 « Soyez tous mes imitateurs ». Frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. Et pour ce faire, nous dit le texte, il envoie Timothée comme exemple sur les principes de vie en Christ, au verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quels sont mes principes de vie en Christ, tels que je les enseigne partout, dans toutes les églises. » Et dans l'Épître aux Philippiens, Paul parle ainsi de Timothée. Chapitre 2, versets 20 à 22. « Je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment votre situation à cœur. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Christ. Vous savez que Timothée a fait ses preuves en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi comme un enfant avec son père. » Et par la suite, Paul continuera d'exposer sa démarche aux Corinthiens, puisque nous pouvons lire en 2 Corinthiens, il y a une suite, 2 Corinthiens 11, versets 12 à 15, je vous l'affiche. « Mais j'agis ainsi et je le ferai encore, pour enlever toute occasion à ceux qui, en cherchant une de se montrer nos égaux sur un point dont ils se vantent. Ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. » Et j'en arrive à mon troisième point, qui nous intéressera certainement plus. Sur quoi basons-nous notre identité? Le sort de ces personnes dans le déni, lorsque nous les confrontons, appartient à Dieu. Cela ne nous appartient pas. Bien sûr, nous pouvons parler, nous pouvons prier et tendre la main pour ces personnes lorsqu'elles viennent à la raison, lorsqu'elles se repentent, lorsqu'elles prennent l'attitude de Paul qui déclare en 1 Timothée 1, versets 15 et 16, « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux, mais il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience. » Et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et de notre côté, sur le plan personnel, quelle est notre attitude lorsque nous sommes confrontés à ce genre de désarroi, à ce type de personnes? Comment encaissons-nous le choc? C'est souvent dévastateur lorsque ces personnes sont des référents pour nous, des références, lorsque ces personnes font autorité sur nous. Alors souvent, nous nous remettons en question, nous culpabilisons, nous nous trouvons sans valeur, avec beaucoup de défauts, n'est-ce pas? J'ai vécu cela. Nos réactions, notre manière de réagir, de nous reconstruire à cela dépendra de notre compréhension et connaissance, de notre acceptation de ce que Dieu a accompli par l'action de Jésus-Christ à la croix. Qui parmi nous a déjà lu ou étudié le livre de Job dans l'Ancien Testament? Voilà, c'est bien. J'aime beaucoup ce livre. C'est vraiment un livre ouvert sur nos vies. Et comment construire nos relations avec notre prochain et avec Dieu. Et l'histoire de Job me rappelle d'une part de notre attitude lorsque nous sommes confrontés à ce genre de situation et d'autre part de notre compréhension et connaissance de l'action de Dieu dans nos vies. Dieu parle ainsi de Job. « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Cependant, dans ce récit, eh bien, par l'action de Satan, Job a tout perdu. Sa famille, ses biens, et pourtant, il reste fidèle à Dieu. Il reste intègre. Il déclare « C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job reste fidèle à Dieu, non pas grâce aux bénédictions qu'il a reçues, mais par son amour pour son Créateur. Puis Dieu redonne en double ses bénédictions. Et à la fin de l'histoire, 42 chapitres quand même, avec beaucoup de sueur et de remise en question, il s'adresse à Dieu en disant « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Oui, Job connaissait l'Éternel, connaissait l'existence de l'Éternel et de ses bontés. Mais par ses yeux, il découvre la souveraineté de Dieu sur les événements, sur la vie et sur la mort. Dieu est aux commandes. Et on peut dire que dans cette situation, il y a un pilote dans l'avion. Alors, à plus forte raison, nous qui avons reçu l'Évangile au travers des messages de la croix de Jésus-Christ, nous pouvons aller de l'avant et nous reposer sur cette vérité. En cela, nous sommes en Christ. Mais qu'est-ce que cela signifie, être en Christ? Comme le mentionne à plusieurs reprises l'apôtre Paul dans cet épître, mais aussi dans l'épître aux Éphésiens, une bonne vingtaine de fois. Eh bien, la signification d'être en Christ, c'est l'apôtre Paul qui la donne dans un des passages certainement l'un des plus importants du Nouveau Testament. C'est en 2 Corinthiens, verset 2 Corinthiens 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel, nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Alors en conclusion, revenons à notre ego humain, qui, une fois en Christ, eh bien, n'est plus égocentrique, mais christocentrique. C'est-à-dire qu'il est en Christ, et c'est la racine même du corps de Christ. Et ce corps de Christ, eh bien, est marqué par nos différences culturelles, par nos différences de personnalité, et par ces belles couleurs que nous apportons dans la vie, dans ce centre de vie. Alors me direz-vous, qu'est-ce que j'ai fait de cette boîte de Lego? C'est l'explication de mon sac à dos. J'ai fait un petit jeu de construction. Et là, je m'adresse particulièrement à Johan. Alors, Johan, je sais que tu as à cœur le corps de Christ, un corps de Christ connecté au Christ pour une région de Cossonay, pour la gloire de Dieu. Et puis, j'avais même mis la croix. Et puis je sais aussi que tu es un jeune papa. Ça tombe bien, tu es venu en famille. Et je pense que tu vas rapidement rentrer dans cette période de construction de Lego. C'est déjà fait. Voilà, le bateau pirate, le château, je ne sais quoi. Enfin, moi, j'ai été bercé dans mon enfance par le Lego. Alors je te l'offre, nous te l'offrons. J'ai un petit peu respecté l'échelle quand même. Mais... J'avais prévu un chant pour la fin, mais je ne sais pas si... Non, on me dit non. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour cet enseignement et cette parole qui nous reste de cette époque de 1 Corinthiens. Merci parce que cela nous encourage, malgré nos difficultés, à nous centrer sur Christ, à vivre ta communion avec les uns et les autres pour l'édification du corps de Christ dans la fidélité de ta parole. Amen.